Bonjour à vous François Burga.
Bonjour.
Directeur de recherche émérite au CNRS, merci d'être en ligne avec nous. On parle de la Syrie ce matin et de cette percée réalisée par l'insurrection dans les faubourgs d'Alep. Il y a quelques jours, la rébellion est parvenue à briser le siège imposé par le régime syrien depuis des semaines sur certains quartiers de la ville. Est-ce que, selon vous, cela peut marquer un tournant dans le conflit syrien ?
Oui, je crois que ça marque un tournant. Il ne faut absolument pas préjugé de l'évolution militaire, parce qu'on sait déjà qu'une contre-offensive se prépare, que des milices, notamment irakiennes, sont transportées dans les faubourgs d'Alep. Mais je pense que ce qui s'est passé le 6 août pourra sans doute être considéré, quelle que soit l'issue militaire à court terme, comme un tournant. Parce qu'il n'y a pas eu que cette victoire militaire inattendue. Il y a eu ces fuites en provenance du Hezbollah qui ont attesté que le moral de ces milices supplétives qui se sont largement substituées au potentiel propre du régime était très bas, qu'elles étaient inefficaces, que l'armée, les restes de l'armée syrienne se sont très très mal comportés au cours des premières journées du mois d'août, et il y a eu indiscutablement un déclic militaire et un déclic politique, parce que les combattants de la rébellion ont communiqué en direction des populations résidant dans les quartiers sous contrôle du régime. Elles ont communiqué avec une tonalité qui, malgré la présence de l'ex-front El-Nusra au sein de la coalition, n'est pas du tout une tonalité sectaire. Et donc, oui, je pense que c'est un moment important, même si, encore une fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, ce qu'on se dit Erdogan et Poutine, hein, et ce qu'il faut qu'on comprenne de la crise syrienne, c'est que le rapport de force militaire n'est pas celui qui correspond à l'opinion publique des Syriennes et des Syriens. C'est un rapport de force qui est complètement instrumentalisé, perfusé par l'extérieur. Mmh. Et que le camp de ceux qui soutiennent le régime s'est montré jusqu'à présent plus déterminé, plus actif, plus précis, plus efficace que celui qui disait soutenir l'opposition. Et donc l'une des grandes hypothèques des heures à venir, c'est la rencontre entre Poutine et Erdogan.
Le président turc et son homologue russe qui sont en tête à tête à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, je précise pour nos auditeurs.
À Saint-Pétersbourg aujourd'hui, voilà. Et c'est extrêmement important. Bon, la conjoncture bilatérale est importante parce que c'est la fin d'une longue brouille qui affectait une partie, en tout cas, de la configuration du conflit. Et donc, oui, il faut attendre. Il y aura très vraisemblablement une contre-offensive armée terrifiante, mais je crois que ce qui s'est passé est relativement important.
Vous parliez tout à l'heure de l'ex-front Al-Nusra, parce que ce groupe a changé de nom très récemment. Il a annoncé qu'il rompait ses liens avec Al-Qaïda. Comment est-ce que vous interprétez cette volte-face ?
Alors, l'une des dimensions les plus spectaculaires de la nouvelle donne militaire, c'est le fait que pour la première fois, il y a eu une très très large union des groupes armés qui est arrivée à fédérer, à coordonner 22 groupes. Au sein de ce groupe, pour la première fois de façon très explicite, il y a la SL et il y a l'ex-front El-Nusra. Alors, l'ex-front El-Nusra a opéré, il y a une dizaine de jours environ, une espèce de, bon, ceux qui ne veulent pas y croire diront manœuvre stratégique pour tromper l'opinion publique occidentale. Ceux qui veulent y croire diront qu'il y a là une démarche qui est susceptible d'aider ce processus de fédération des oppositions militaires.
Vous vous y croyez ?
Personnellement, depuis très longtemps, j'ai assumé l'idée, parce que j'avais rencontré des leaders des groupes armés en Jordanie et un peu partout où ils se trouvaient, j'ai toujours soutenu l'idée que le front El-Nusra devait être dissocié de Daesh dans ses comportements militaires et politiques sur le terrain. Donc oui, je pense que l'un des grands défis des Occidentaux actuellement, c'est d'être capable de mettre le curseur sur des forces politiques que l'on va considérer comme fréquentables, ou disons dont on va accepter qu'elles font partie de ce lot de forces politiques dans lesquelles les Syriennes et les Syriens choisiront le jour venu par des procédés démocratiques. Et je pense que oui, je pense que le front ex-El-Nusra devrait faire partie des forces politiques considérées comme fréquentables. Je sais que c'est un terrain sur lequel le débat est très vif.
A contrario, ça veut dire que la rébellion que l'on désignait comme modérée il y a encore quelques mois n'a plus les hommes ou les moyens de mener bataille toute seule.
Alors ça, c'est une évidence absolue. Elle a été lâchée. Encore une fois, mon analyse, que vous n'êtes pas obligé de partager, est que nous avons défini un spectre fréquentable beaucoup trop étroit. Nous avons exclu, j'ai suivi personnellement ce processus, nous avons exclu année après année des groupes que nous considérions comme pas suffisamment explicitement laïcs. C'était, à mon sens, une erreur d'appréciation. Nous nous sommes retrouvés avec un échantillon de forces politiques fréquentables qui était à la périphérie du tissu militaire de la rébellion. Alors actuellement, la grande nouveauté, c'est que l'ASL a fait des communiqués au cours des journées précédentes, hier, avant-hier.
L'armée syrienne libre,
en symbiose avec l'ex-front El-Nusra, a fait des communiqués qui sont tout sauf sectaires, qui explicitent l'idée que ceux qui seront dans les mosquées ou dans les églises, ou même ceux qui rendront les armes, ne seront pas ciblés, avec toute une terminologie destinée à se dissocier, même si ce n'est pas dit clairement, à se dissocier des méthodes, des objectifs et des catégories d'action de Daesh. Donc c'est cette situation-là où nous nous trouvons actuellement, pour la première fois, une opposition militaire, un spectre très large, incluant encore une fois tous les groupes soutenus par les Occidentaux, qui vient de remporter un succès militaire décisif, des traces d'un désarroi profond des troupes du président Bachar el-Assad, qui ne tient que grâce à des milices d'importation, sur une base sectaire quand même, des chiites irakiens, qui semblent eux-mêmes manquer cruellement de détermination. Ce sont les combattants de Hezbollah qui les dénonçaient en tant que tels. Donc voilà le paysage. Mais ce paysage ne doit pas nous faire oublier que les Russes peuvent très bien faire en sorte, ils ont encore une maîtrise aérienne totale, ils ont encore la capacité de stimuler un processus de contre-attaque. Donc les journées qui viennent vont être décisives, à la fois sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, avec ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'attitude des Occidentaux. Pour l'instant, les réactions sont peu claires. C'est plutôt l'embarras et le désarroi. Mais je pense que tout le monde attend ce qui va sortir de la rencontre de Saint-Pétersbourg aujourd'hui.
Oui, ça va forcément influencer les négociations de Genève qui doivent reprendre entre le régime et l'opposition.
Absolument. Bon, les négociations de Genève ne peuvent avoir de sens que si le régime est en situation de devoir négocier. Or, notre stratégie du tous contre Daesh et seulement contre Daesh avait abouti au résultat extrêmement paradoxal de redonner au régime son arrogance extrême aux dernières négociations de Genève. Il ne voulait même pas considérer les représentants de l'opposition comme des gens de nationalité syrienne. C'était uniquement des mercenaires occidentaux, etc. S'il se trouve dans une situation militaire un petit peu plus difficile, nous avons une chance, même modeste, que le processus revienne au centre et sorte de ce passage par les extrêmes auxquels il était resté cantonné depuis maintenant 2 ou 3 ans, depuis l'émergence de Daesh et la reconfiguration de l'attitude occidentale liée à l'affirmation de Daesh. Donc effectivement, affaiblir le régime, ce pourrait être l'un des préalables à une négociation qui mériterait son nom et qui pourrait permettre d'entrevoir la sortie de crise.
Un dernier mot, François Burga, justement à propos de Daesh, le groupe État islamique dans tout cela, il recule. Est-ce que c'est encore une force tout de même prégnante en Syrie ?
C'est encore une force prégnante, indiscutablement. Il est absolument évident également que la coalition des troupes iraniennes, irakiennes sur une base sectaire, kurdes sur une base d'appartenance sectaire également, et des aviations de la terre entière, le fait reculer militairement. Ce qu'il faut simplement garder présent à l'esprit, c'est que tant que nous ne faisons que remettre aux milices kurdes et chiites, irakiennes ou iraniennes, les clés de champs de ruines causés par nos bombes, nous ne faisons pas vraisemblablement avancer le pays vers une porte de sortie de crise. Il faut une alternative politique. Cette alternative politique ne peut être pensée penser qu'avec des forces crédibles au sein des sunnites irakiens et syriens, jusqu'à présent, le caractère un peu monolithique de notre attitude, tous contre Daesh et seulement contre Daesh, laissons le régime survivre, laissons le régime aidé massivement par les Russes, était à mon sens une erreur d'appréciation.